Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les plagistes de la critique. J'ai nommé Sophie Avon de Sud-Ouest, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession, Nicolas Chalère de l'Obs et Pierre Murat de Télérama.fr. On parle ce soir de films sortis en juillet, notamment Anna de Luc Besson, Vita et Virginia, L'œuvre sans auteur de Dan Ersmark, The Operative, Persona non grata de Roche Dizem, à la demande de Xavier, du documentaire sur Diego Maradona, et enfin de Earthmail, mais je crois que tout le monde n'a pas eu à subir le calvaire que nous avons connu. Dans le courrier de la semaine, eh bien Arnaud Sanquer a vu Greta de Neil Jordan avec Isabelle Huppert. Je ne me faisais pas d'illusions, avec un réalisateur perdu depuis longtemps et une actrice qui tourne 163 films par an et devient la caricature d'elle-même. Mais là, ça a dépassé toutes mes espérances. J'avais envie de sortir toutes les 5 minutes tellement c'était affligeant. L'image est laide, la musique insupportable et le jeu de Mademoiselle Huppert désopilant, et tout ça sans une once de second degré. Le Dain de Quentin Dupieux a plu à nos auditeurs, dont Pierre Cusor. C'est une fable noire et absurde à laquelle j'ai souvent souri, voire ri. Le duo du jardin Enel est absolument assorti. C'est une évidence que ces deux acteurs devaient se rencontrer. Pour Jérôme Duvivier de Lyon, c'est un délice d'humour absurde et noir qui rappelle le Bertrand Blier des débuts, mais c'est un film dangereux. En sortant, je suis tombé sur une paire de chaussures en daim dans une vitrine et j'ai failli succomber. Françoise Cabiron est en phase avec l'enthousiasme de Nicolas Chalère. Dupieux fait un cinéma très simple et très complexe. Pour moi, voir un film de lui, c'est l'assurance de ne pas m'ennuyer et d'être face à un cinéma de l'illimité qui ouvre des espaces sans fin. Et c'est roboratif. En revanche, Guy Doucan de Paris reproche au masque d'avoir encensé le Dain, ce navet laborieux, ce gibier faisandé, bêtement méchant, le dialogue avec le blouson pue comme tout le reste, le faux, tout est prévisible et sans âme. Le seul plus que j'accorderai à ce film est sa promo que tu as, cher masque, largement renforcé. Dupieux peut te dire merci. Voilà, sinon Jean-Philippe qui vit en Slovaquie juge qu'aller voir des films d'auteur quand on habite à l'étranger relève souvent, c'est vrai, du militantisme. Habitant la Slovaquie, je me permets de rendre hommage au Kino Lumière à Bratislava, qui est soutenu par Eurimage, le fonds cinéma du Conseil de l'Europe, qui permet encore de se délecter de films de bonne tenue dans le monde entier. Les instituts français organisent aussi des festivals de films français à l'étranger. Et vous seriez surpris, non, je suis pas surpris, du nombre de spectateurs qui y participent. Bref, sans le soutien public, j'ignore si le cinéma d'auteur existerait encore. Merci au masque d'aiguiser notre curiosité et d'étancher notre soif. Et on termine avec une lettre question du jeune Raphaël Clancher. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 13 ans et j'écoute votre émission avec ma mère qui vous adore. Je voudrais savoir ce que vous voulez dire dans vos critiques de films quand vous dites et répétez souvent « il n'y a pas de cinéma dans ce film ». Je ne comprends pas très bien ce que cela veut dire. Non mais la question est sérieuse, hein ? Vous riez, mais j'ai demandé à ma mère. Elle a réfléchi, elle a dit qu'en fait, elle ne voyait pas très bien comment m'expliquer. Pouvez-vous, nous demande Raphaël, pouvez-vous m'éclairer ? Merci. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, Raphaël ?
D'abord, c'est une très bonne question.
C'est une bonne question.
On peut se la poser nous-mêmes.
Absolument.
On a tendance à penser que c'est une question de mise en scène ou de mais ce n'est pas que ça. Moi, je dirais que c'est l'émotion ou la vie. Enfin, quand on sent que c'est quelque chose d'authentique, de vrai qui passe dans le film, là, il y a du cinéma parce que c'est de l'émotion pure.
Moi, je dirais un regard, mais vraiment un regard un peu plus original que la moyenne, quelque chose qui frappe par l'originalité du regard. À partir du moment où il y a un regard...
Et peut-être de style aussi, de style cinématographique.
Oui, la vérité, ben oui, mais c'est arrivé à donner de la vérité.
Xavier. C'est tout ce qui distingue le cinéma de la pièce radiophonique, c'est-à-dire qu'on peut faire des pièces radiophoniques absolument formidables avec des scripts, des scénarios, des effets de bruitage qui vont être magnifiques, mais en même temps, le cinéma, c'est de l'image, c'est de la mise en scène, c'est une perspective, c'est du montage, et quand le cinéma n'est qu'illustration plate et insipide du scénario sur lequel on s'est reposé, ben, il n'y a pas de cinéma, parce qu'il n'y a pas d'ajout particulier. Et puis quand de temps en temps, et ça se voit, c'est encore plus probant sur les films qui ne sont pas nécessairement entièrement dialogués, quand la mise en scène, la musique, le montage, le cadre racontent déjà quelque chose et enchaînent comme ça un récit, et ben là on peut parler de cinéma, mais il va le découvrir en étant un cinéphile et un auditeur fidèle, et ça va être merveilleux pour lui.
Et Nicolas ?
Ah ben mes camarades ont très bien résumé, mais je trouve l'intégration d'autant plus pertinente aujourd'hui où on est abreuvé d'images et où qu'est-ce que le cinéma aujourd'hui aussi à notre époque où il peut y en avoir sur différents supports.
Mais ce qui est vrai, c'est que je me suis rendu compte en lisant cette lettre que c'est un mot qu'on utilisait souvent, enfin une expression qu'on utilisait souvent, et que c'est pas forcément clair, évidemment, de parler de film en disant qu'il n'y a pas de cinéma. Voilà. Allez, déjà sorti aux États-Unis où il a fait un flop, paraît-il, monumental. Voici donc Anna, le 18e film de Luc Besson, sorti le 10 juillet dernier, avec le mannequin Sacha Luce. La reine Hélène Mirren, le gallois Luke Evans et Anna, c'est donc Sacha Luce, 24 ans, qui vend des poupées russes sur le marché de Moscou. Elle est elle-même une sorte de matrioshka, puisqu'elle est aussi top modèle à Paris, tueuse à Milan, agent double partout, lesbienne et hétérosexuelle. Voilà, vous savez tout de ce Nikita 2019, en un peu plus puéril quant au pseudo-polar post-MeToo. Évidemment, on a le droit d'en rigoler un peu quand on sait que Besson est toujours poursuivi en justice par des actrices mannequins pour comportement inapproprié. Ça dure quand même 2 heures, Xavier.
Et en laissant passer, tu l'as dit, c'est un Nikita. C'est triste de voir un autre un metteur en scène que je n'aime pas particulièrement mais qui représente quand même une partie de l'histoire du récent cinéma français, hein, Luc Besson c'est pas n'importe qui, après l'échec de Valérian, un peu injuste en ce qui me concerne, parce que je trouvais qu'il y avait des choses vraiment intéressantes dans Valérian, et je continue, je l'ai dit ici, je vais pas me dédire sinon les gens vont croire que j'ai pas de parole, et c'est important d'avoir une parole.
Très bien. Ouais.
Mais il refait dans le désespoir, l'affolement général, parce qu'il est en train de perdre Europacorp, il refait Nikita.
Parce que, en fait, il a de gros problèmes en plus.
Il a de gros problèmes financiers. Il pensait se refaire avec vraiment ce remake, cet auto-remake de Nikita, sauf que ça se voit, mais comme les yeux au milieu de la figure, et même si personne n'a vu Nikita, tout le monde va reconnaître et le postulat et le personnage principal. Et des scènes entières. La grande différence, pour laquelle j'ai une certaine gourmandise, voire une petite tolérance, c'est qu'à la place de Jeanne Moreau, il a mis Hélène Mirren en Marguerite Duras. Et voir Marguerite Duras intervenir régulièrement dans un film d'espionnage russe où tout le monde parle anglais, avec sa clope, c'est... Ma petite, va falloir mettre un agent très dangereux à terre, parce que ça me fait mourir de rire. Alors, elle joue pas dans le même film, c'est clair, elle est là pour cachetonner, ça se voit, elle pourrait hisser un carton. Je ne suis pas là pour jouer, je suis là pour prendre l'argent. On verrait pas la différence, mais moi, elle me fait hurler de bonheur. Après, il y a un moyen de passer les 2 heures de ce temps effectivement interminable, parce que le scénario aussi est une poupée russe, c'est-à-dire que c'est 3 mois avant, 10 ans plus tard, 3 jours après,
enfin, il y a un moment, revisite.
Attendez, on va prendre des notes, sauf que c'est censé être au lendemain de la chute du mur dans le bascule de l'Union soviétique vers la Russie contemporaine. Donc on a des scènes de poursuite dans le Moscou de 1990 avec Starbucks derrière.
Le téléphone portable.
Bien sûr, Starbucks était évidemment précipité pour s'installer à Moscou. On a Gap aussi à un moment. Alors, comme il est un peu emmerdé, il met des grosses affiches SCCP, USSR, enfin, de l'époque. Donc, mais rien ne fonctionne, tout est faux, les anachronismes sont extraordinaires, les clichés se ramassent à la pelle. Il y a un moment où elle va donc faire des photos chez un nécessairement, évidemment, un photographe hystérique, folle, absolue et tout ça. Et il y a un gros réfrigérateur qui est derrière elle, qui a un truc qui a été créé il y a 2-3 ans. Enfin, on est tout le temps dans l'anachronisme, on passe son temps à repérer des objets qui ne devraient pas être à l'écran, mais qui sont.
Je pense que tu as dit l'essentiel. Oui, voilà. Absolument. Sophie.
Alors, en gros, pour aller vite, je suis assez d'accord. Mais moi, je m'attendais, contrairement à Xavier, je m'attendais à rien, parce que je trouve que c'est un piètre réalisateur depuis le début. J'ai jamais aimé un de ses films. Donc, relativement, j'ai été presque surprise en bien, parce que je m'attendais tellement peu à quoi que ce soit.
Déçu en bien, donc.
Oui, comme on dit. Mais il faut admettre, bon, à partir du moment où c'est un pur produit international, effectivement. Alors, des Russes parlent anglais.
Il marche pas à l'étranger. Des produits internationaux.
Il marche pas, mais enfin, il l'a fait au départ en espérant faire un pur produit international. C'est en effet formaté pour ça, pour marcher. C'est en effet, comme l'a dit Xavier, une succession de stéréotypes. C'est une fausse histoire d'amour, c'est une fausse histoire d'espionnage, tout est faux. Enfin, rien n'est vrai. C'est l'idée qu'on se fait de l'amour, l'idée, c'est un ramassis de stéréotypes et de fantasmes. Et de fantasmes masculins. C'est aussi une fausse histoire de féminisme, parce que c'est aussi un truc, il y a une espèce de tentative féministe. Bon, mais à partir du moment où on admet tout ça et on admet que Hélène Mirren peut en effet être une patronne du KGB, c'est un peu divertissant.
Pierre, tu connais bien la Russie. Ouais. Est-ce que tu l'as reconnue dans ce film ?
Non, vraiment pas. Mais je crois que là, en effet, chercher le réalisme dans cette chose est absolument inutile. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec...
Quand même de véracité historique, Pierre.
Pardon,
on peut faire un petit effort de véracité ou d'exact.
Non, on s'en fout. C'est un produit d'espionnage. Moi, je suis comme Sophie Ziac. Moi, je n'aime pas du tout Luc Besson. Et je trouvais tous ses films récents, mais absolument atroces. C'est-à-dire, Valérien, je trouve ça atroce. Lucie, parce que le drame de Luc Besson, c'est qu'il veut un peu penser. Or là, ce qui me plaît, c'est qu'il pense pas du tout.
Elle cite Tchekhov.
Oui,
attention, elle
n'arrête pas. Mais ça, c'est un fantasme. C'est pas
pensé. C'est donc une histoire où, en effet, elle est traîtresse et elle est trahie. Et alors, c'est une suite de rebondissements. On l'oublie 5 minutes après être sorti de la salle. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais vraiment, pendant 1h45, et alors, le grand, grand bonheur, en effet. Alors, évidemment, c'est pas Nouraïev, ou Nouraïev, vous avez été très méchant, mais vous avez quand même très signalé. Non, mais vous avez signalé que tout le monde parlait un russe absolument impeccable. Là, évidemment, Hélène Mirren en patron, en deuxième du KGB. Oui. Mais Hélène Mirren, la voir, en effet, je rejoins Xavier. En faire des tonnes dans un rôle. Moi, ça m'a rappelé Rosa Klebb, la méchante de James Bond dans Bon Baiser de Russie. C'est à peu près ça. Il rend hommage à ça. Il y a pas des pointes qui sortent de ses chaussures, mais c'est ça. Et ben, moi, je me suis bien amusé. Alors, c'est nul, mais on s'amuse bien.
Allez, quelle belle défense. Ne passons pas trop de temps sur ce film, Nicolas.
Non, mais je trouve ça catastrophique. Mais je suis très admiratif de Luc Besson quand même parce qu'il ait montré le film à la presse. C'est soit de l'inconscience.
Oui, au moins.
Soit un courage ou vraiment un désespoir total. Je comprends pas, lui qui a quand même eu l'habitude de pas montrer les films. Le pire c'est qu'il se veut moderne avec ce concept de poupée russe, avec ses flashbacks, flash forward incessants. Et quand on a vu un film de Brian De Palma dans sa vie, on rigole, mais tellement tout est prévisible, tout est attendu, tout est surligné, donc on peut pas réussir ça. Et alors en plus, vous l'avez suggéré, je pense que Besson croit vraiment avoir fait un polar féministe.
Alors
les 5 à 7 à l'hôtel qu'elle s'autorise pendant tout le film, et quand on sait effectivement les problèmes qu'il a, c'est vraiment très très embarrassant. Et moi j'ai découvert vraiment la vraie filiation de Besson dans ce film, c'est Gérard de Villiers. Moi j'ai l'impression de voir un SAS, mais sans les scènes érotiques, quoi.
Anna, c'est donc Luc Besson. Et le même jour qu'Anna, c'est-à-dire le 10 juillet, sortait Vita et Virginia, le deuxième long métrage de la Britannique Shania Button. Et c'est le récit façon et style biopic d'ailleurs de la grande histoire d'amour entre Virginia Woolf, incarnée ici par Elisabeth Debicki, qui est très grande d'ailleurs. Je trouve qu'elle est, je parle de la taille, parce qu'à côté,
par rapport à Gemma,
la belle Gemma paraît toute petite. Bref, Evita Sackville-West, jouée par Gemma Arterton, les deux romancières anglaises, l'une tout à fait révolutionnaire, c'est Woolf, l'autre très mondaine, c'est Sackville-West, étaient toutes deux mariées quand elles ont eu le coup de foudre, c'était en 1922. L'amusant de l'histoire, c'est que la plus timide était la romancière la plus osée, la Virginia Woolf du groupe Bloomsbury, alors que la plus entreprenante était l'aristocrate, Vita, dont la mère psychorigide est jouée ici, d'ailleurs, on comprend pas très bien, par Isabella Rossellini. Bref, cette love story a donné un chef-d'œuvre, c'est Orlando, qui avait admirablement joué Isabelle Huppert à l'Odéon il y a fort longtemps. C'est évidemment pas le cas de ce film que j'ai trouvé incroyablement à mi-donné, corseté, coincé, jusque dans des scènes de sexe d'une telle pudeur que j'avais le sentiment qu'elles avaient été tournées par un pasteur anglican. Ça dure 1h50, c'est un film vraiment sur la passion amoureuse, mais sans une once de passion, Pierre.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est d'un esthétisme qui est assez agréable à regarder. Parce que les actrices sont très belles et elles sont, enfin elles, enfin celle qui joue Vida, Gemma Arterton, elle est vraiment sublime. Ce qui se passe, c'est que on est quand même sensible aux lettres qu'elles s'envoient, puisque le film est fait sur les lettres qu'elles se sont envoyées.
Correspondance formidable, magnifique, voilà, qui est rééditée en poche d'ailleurs.
Voilà, et on entend des choses absolument magnifiques, comme une lettre que Virginia, je m'accoutume à vous désirer, obstinément, lamentablement, fidèlement. J'espère que cela vous plaira enfin, car c'est si déplaisant pour moi. Rien que pour entendre ça et voir ça, c'est tout à fait beau. Le paradoxe, c'est qu'en effet, c'est très froid. Et très curieusement, moi, je trouve que ce qu'elle réussit à rendre beaucoup plus mystérieux que ces deux femmes, c'est les deux mecs. C'est-à-dire que le mari diplomate de Vita, qu'on entrevoit dans un lit avec un jeune homme.
On le voit pas beaucoup, cela dit.
Non, c'est très discret. Oui.
Mais c'est à la fin du film, il faut.
Oui. Mais c'est, on se dit, tiens, pourquoi il accepte, comment, pourquoi, quelles sont les relations? Idem pour le mari de Virginia Woolf.
Mais ce sont deux mecs. Très libres, hein.
Voilà. Oui, absolument. Mais les deux mecs qu'on ne voit pas, ou qui sont des seconds rôles sacrifiés, paradoxalement, sont beaucoup plus mystérieux que les deux femmes qui ont le rôle principal, ce qui est un peu dommage.
Dont la passion.
Elle est
amoureuse.
Elle est dite par les mots et elle est moins montrée par les images.
C'est le paradoxe, Nicolas.
Oui, moi j'ai jamais vu un film aussi prude, aussi décoratif et aussi inoffensif.
Décoratif, c'est ça, oui.
Oui, inoffensif sur deux femmes aussi, j'allais dire, aussi modernes, aussi libres et transgressives, parce que ce qu'on comprend effectivement, c'est que ce sont deux femmes bisexuelles en couple et heureuses avec leur mari, qui eux-mêmes sont bisexuels et vivent des liaisons à côté. Et il y a un vrai sujet passionnant, à la fois cette passion et à la fois cette liberté dans cette Angleterre corsetée des années 20. Et ce film est purement décoratif. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Vita Sackville-West, elle n'était pas que romancière, elle était jardinière. Et j'en viens à me demander.
Enfin, si jardinière version aristocratique.
Oui, aristocratique. Hein. Mais j'en viens à me demander si ce qui, en fait, il aurait fallu peut-être, ce qui intéressait peut-être la réalisatrice, c'était les ornementations florales qui ornent l'écran. Et il faudrait presque revoir le film pour analyser si c'est ça vraiment le point. Parce que le film manque tellement de points de vue, manque tellement de vie. Que je comprends pas.
Les
femmes qui s'appelle Shania Button, je crois que c'est son premier film. Je comprends pas.
Sophie.
C'est vrai que c'est une entreprise un peu au-dessus de ses forces, mais en même temps c'est son deuxième long métrage. Alors moi je suis un peu d'accord avec vous deux, c'est-à-dire qu'à la fois le film est en effet amidonné ou décoratif, et elle essaie quand même. Il y a pas beaucoup de vie, ça c'est vrai, et c'est le problème de la reconstitution générale, surtout sur une époque comme ça. Elle essaie quand même de sortir du cadre un peu, quand justement à propos des lettres, elle essaie de faire entendre la littérature et à travers les lettres, puisqu'elle ne peut pas faire des lectures des livres, et de manière un peu avec des face caméra comme ça, de manière un peu théâtralisée, pour essayer de. C'est la seule chose que je trouve intéressante dans le film, c'est qu'elle essaie de montrer comment ces deux femmes ont besoin l'une de l'autre, pas seulement en tant qu'amantes, mais en tant qu'écrivains, en tant que femmes de lettres. Parce que finalement, Vita a besoin du regard de Virginia Woolf et de son assentiment sur son œuvre. Et
Vita, qui est une romancière
populaire. Qui est une romancière qui vend bien ses livres, mais qui sait bien qu'elle n'arrivera jamais à la cheville de Virginia. Et Virginia, qui s'éprend d'elle et qui, en effet, va explorer cette femme, puisqu'elle servira de modèle pour Orlando. Donc toutes les deux, elles sont placées sous le signe de la littérature. Il fallait faire entendre de la littérature d'une manière ou d'une autre. Donc le système des lettres, elle essaie de s'en sortir comme elle peut. Après, il y a une piété générale, en effet, dans le film qui est un peu gênant, et notamment, curieusement, Virginia Woolf, qu'elle fait parler comme une pitié. Alors que l'actrice est bonne, je trouve que l'actrice est bonne, alors que Gemma Arterton, dans le rôle où elle aurait pu être enjouée, libre et rigolote, elle est appliquée et elle n'est pas excellente. Bon, le film est boiteux, quoi.
Xavier.
Le problème, c'est que le film veut raconter plein de choses, et en particulier la jeunesse de Orlando, comme tu le rappelais, qui est un immense livre, qui est vraiment un livre, mais unique en son genre, sur le genre, justement, sur cet être à la fois garçon et femme qui traverse les époques. C'est un livre absolument magnifique.
Qui annonce beaucoup de choses.
Qui annonce beaucoup de choses, qui a sublimement été interprété par Tilda Swinton, bien sûr, au cinéma, avant Isabelle Huppert. Voilà, c'était juste pour rappeler que Tilda aussi avait joué Orlando. Et je ne vois pas la jeunesse. C'est pas parce qu'elle couche avec une fille qu'elle invente Orlando. Orlando, c'est bien supérieur à un livre sur le pansexualisme ou sur l'incertitude sexuelle. C'est un livre beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Je ne le vois absolument pas dans ce film où, effectivement, tu l'as dit, la sexualité lesbienne est encore montrée sous ses pires clichés.
Incroyable.
Je t'effleure le téton gauche, hop, orgasme. Quelle chance. Alors, effectivement.
Qu'elle couche habillée.
À couche habillée, un doigt suffit. Enfin, vraiment, c'est, ça va très vite.
Hein, bon. Bah, parfois, c'est suffisant.
Peut-être les pas, oui, oui, on voit bien placé, on est d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a effectivement face caméra. Qui est un faux académiste, en fait.
Oui, mais c'est vrai que ça marche pas très bien.
Enfin, qui marche pas. Il y a les lettres. Et il y a cette réplique absolument extraordinaire. Je ne sais pas qui l'a écrite. Mais, considérant qu'on, donc, nous parlons de deux femmes qui couchent ensemble, Virginia Woolf dit, j'ai un million de choses moins à vous dire qu'à enfouir en vous. Je vous la répète ou je fais un dessin au tableau noir, hein. C'est bon, j'ai un million de choses moins à vous dire qu'à enfouir en vous. Éloge du Godemiché. Je trouve ça pas mal.
Eh bien, c'est Vita et Virginia,
vas-y, quand même, enfouis, Nicolas rougit pas.
Je précise que, donc, paraissent...
Il rougit.
À l'occasion de ce... Ah oui, c'est vrai qu'il rougit, Nicolas. C'est vrai. Il est même écarlate. Je précise qu'en livre de poche paraissent à l'occasion de la sortie de Vita et Virginia, la correspondance, donc, des deux, à lire. Évidemment, ainsi que le roman de Christine Orban, Virginia et Vita. Et en folio, il y a la ressortie de Orlando. Et pour ceux qui ont de l'argent, je dis bien pour ceux qui ont de l'argent, c'est aux éditions des Saint-Pères, le manuscrit, enfin le facsimilé évidemment, du manuscrit de Mrs. Dalloway, qui est aussi un très grand livre, de Virginia Woolf. L'œuvre sans auteur, qui est sortie le 17 juillet, un film en deux parties, donc 3 heures au total, de l'allemand Florian Henkel, Von Donnersmarck, à qui on doit La vie des autres, qui avait été un succès absolument incroyable. Après, il a fait un très mauvais film, mais non, on va l'oublier. Et là, c'est avec Tom Schilling, et la ravissante Paula Baer, qui irradiait le Franz de François Ozon, et avec Idéal, il faut dire, dans le rôle du salaud, Sébastien Koch. Et si je devais résumer le film, donc de 3 heures, qui selon moi vaut plus pour son sujet que son esthétique, question, est-ce qu'il y a du cinéma pour Raphaël? Je dirais que c'est tout le XXe siècle allemand, enfin en tout cas la première partie du XXe siècle allemand, du nazisme au communisme et puis du communisme au capitalisme. Le fil conducteur, c'est Kurt Barnett, et donc je parle le jeune Tom Schilling. Il est enfant à Dresde en 1937, il est conduit par sa tante schizophrène à l'exposition sur l'art dégénéré, vous savez, cette exposition où les nazis désignaient aussi bien Paul Klee que Kandinsky. Et puis Kurt grandit, tombe amoureux d'Elie, qui est la fille du médecin SS, un gynéco-eugéniste, je dis bien un gynéco-eugéniste, qui a interné et tué sa tante, lequel médecin va devenir après-guerre un mandarin de l'Allemagne stalinienne, de la RDA, pour les plus jeunes d'entre nous, où Kurt, lui, pendant ce temps-là, peint à fresque des ouvriers avec faucille et marteau. Et dans la dernière partie du film, Kurt passe à l'ouest, à l'époque d'ailleurs en métro, hein. C'était juste avant la chute du mur, on peut passer
la de l'est
à l'ouest en métro, c'est sidérant. Il découvre la liberté, mais aussi évidemment les impostures de l'art moderne. Dans le monde capitaliste, il continue d'aimer Elie, de vouloir confronter son beau-père, qui est devenu entre-temps un ponte de la médecine à Berlin-Ouest, à son passé. Alors évidemment, c'est appuyé, c'est du Donnersmarck, hein, c'est démonstratif, mais le sujet est passionnant. Et en sachant quand même, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, que Donnersmarck dit s'être inspiré de la vie du peintre Gerhard Richter. Nicolas.
Ben oui, c'est exactement ça. C'est que je trouve que la vraie force du film, c'est vraiment son scénario et l'ampleur de ce qu'il parvient à embrasser à la fois historiquement et thématiquement. C'est-à-dire que les deux grands sujets du film qui vont se croiser et qui, pour le coup, on va se dire, n'a rien à voir, mais qui va être relié par le destin de ces personnages et de cette famille, c'est l'euthanasie des enfants et l'eugénisme du régime nazi, et puis l'avant-gardiste de l'école de Düsseldorf. Et tout ça va se croiser, va se rejoindre par le destin de ce personnage, regardé par Tom Schilling.
Et c'est très bien, d'ailleurs, comme comédien.
Qui est bien sur physiquement. Je trouve qu'il manque un peu de...
C'est le job.
Il a un regard très bleu, comme ça, très très mélancolique, et je trouve qu'il est physiquement, après, sur le jeu, moi, je suis un peu plus dubitatif. Et ce qui est assez assez beau, c'est le parallèle que file le film sur ce qui se cache derrière une œuvre d'art, ce qui préside à sa création à la fois dans la vie de l'auteur et en même temps ce qu'on ne sait pas des êtres et des non-dits familiaux et des êtres que l'on côtoie. C'est-à-dire que l'œuvre sans auteur, c'est le titre qui va être donné à l'œuvre, que la première œuvre qui, voilà, qui va rendre célèbre le personnage. Et parce qu'on va dire, c'est l'école de Düsseldorf, il avait mis la révolution, c'était l'image objective qui, comme conception, composition plastique, c'est-à-dire que on reproduisait en peinture des photos, c'est-à-dire c'est reprendre l'art figuratif et le rendre, enfin il y avait
un café Richter.
Café Richter, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la critique l'avait mal accueilli en disant mais c'est pas de l'art, il y a pas de vécu, il y a rien derrière. Alors que justement, c'est toute la beauté du film, c'est d'arriver à cette œuvre après tout ce qu'il a vécu, et en plus ne le sachant pas. Alors on va pas trop en raconter, mais il ne sait pas. C'est plein de non-dits, le parcours de ce personnage, et il ne sait pas ce que son beau-père a fait à sa tante.
Il va l'apprendre.
Mais c'est pas très clair. Il ne le sait pas vraiment.
Non, et ça, il ne le découvre qu'à la fin.
Voilà.
Il l'a jamais rencontré.
Mais très vite, il va comprendre le rôle qu'a joué ce médecin SS.
Mais pas vraiment, et pas exactement. Oui, pendant la guerre, mais pas. Il va pas savoir ce qu'il a fait à sa tante.
À sa tante, oui.
Voilà. Et ça, c'est
très beau. Le gamin l'a jamais croisé.
Non, mais plus, il avait 7 ans.
Et ce qui est très beau, c'est ça. C'est ce qui se cache derrière une œuvre et ce qui se cache derrière des vies. Et ça, je trouve ça magnifique. Et il y a une vraie dimension romanesque. Après.
Cela dit, message au distributeur, mais enfin, appeler un film l'œuvre sans auteur.
Oui.
Le distribuer en deux parties. C'est-à-dire deux places payantes quand même, hein. Pardon, mais c'est du suicide mode d'emploi, hein.
Et alors voilà. Et après,
allez, Pierre.
Les camarades parlaient pour sur les.
Oui, réserves, chacun va s'exprimer sur ce
sujet. Moi, j'ai souvent défendu à ce micro le romanesque. Alors évidemment, je suis ravi parce que c'est un vrai film romanesque. Alors le problème, et on en revient à la lettre de Raphaël, je crois, c'est en effet un problème de mise en scène. C'est-à-dire que même dans la vie des autres, le monsieur au nom à rallonge, là, le cinéaste à rallonge, n'a pas de vrai talent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas
mais
de
vrai...
Mais
c'était efficace, la vie des autres.
Voilà, oui, mais là aussi, là, il n'a pas de vrai regard sur ceux qu'il filme. Mais ceux qu'il filme, est vraiment
et passionnant.
Et passionnant. C'est-à-dire que non seulement c'est romanesque, c'est-à-dire qu'on s'ennuie pas pendant les trois heures.
Jusqu'au bout, hein.
On s'ennuie pas, car il y a des rebondissements, des histoires. Mais il y a une thèse comme ça qui va pendant tout le film et qui est en effet la dénonciation de la censure en art, que ce soit au moment du nazisme, eh ben c'est tous pourris, enfin l'art pur, l'art dégénéré qui est mis à la poubelle et voilà, et donc on n'arrive pas à peindre, et malheureusement après le nazisme l'Allemagne de l'Est est sous la coupe d'un communisme qui, au nom du héros positif, reproduit absolument les mêmes erreurs. Donc c'est ça qui est absolument bouleversant, c'est de voir comment les artistes ont dû, le héros est l'un d'eux, résister à la fois au nazisme, là il était un peu jeune, mais après au communisme, pour essayer de s'imposer. C'est tout à fait important et le sujet est absolument magnifique.
Et puis, moi, j'ai découvert quand même, en 25 ans, on aura vu ce pays basculer de la pire idéologie à une autre, et ensuite pour déboucher dans cette grande période du capitalisme, tout ça rassemblé sur 25 ans.
Oui, c'est ça. Mais en tout cas, en effet, ce qu'il dit est absolument passionnant. On aimerait, mais je crois que c'est sans espoir maintenant, qu'il ait un peu plus de regard
pour reprendre le deuxième film qu'il a fait.
Je disais tout à l'heure pour la mise en scène.
C'était un remake d'un film français.
J'ai oublié le titre, mais Le Touriste, ou
Le Touriste, oui.
Touriste.
C'était un remake
d'un film.
C'était un sommet.
Le Touriste.
Mais comment s'appelait l'original?
Anthony Zimmer. Le film qui était passé.
Le film Hollywoodien de Donnas Mark. Xavier, parce que je crois que ce film ne l'a
pas
encore.
Xavier. Moi, j'aimerais bien qu'il ait un peu plus de légèreté aussi dans le traitement, parce que c'est quand même un cinéaste d'une lourdeur absolue. On a droit à un moment au début du film, de la première partie du premier épisode, à la tante un peu folle qui rentre justement de l'exposition sur l'art dégénéré et qui dirige une symphonie d'autobus. Bon, là, on se dit...
Celle qu'on va revoir à la fin.
Parce que ça ne sert en rien. Il faut bien qu'elle ait quand même un écho, hein, évidemment. Moi, j'aime plutôt bien la première partie, malgré la lourdeur, malgré la pesanteur, malgré le côté très démonstratif de la mise en scène. Je me dis, ouais, il y a un vrai sujet, effectivement, l'eugénisme, le salaud qui est un salaud, évidemment, sous le nazisme, qui va devenir un salaud également sous la RDA. C'est-à-dire comment, pratiquement, on a récupéré, effectivement, cette malfaisance.
Il restait un salaud dans l'Allemagne, dans la RFA.
Dans la RFA, voilà. Enfin, Tout ça est extrêmement intéressant. Et je, la deuxième partie, je me disais que c'est comme le plaisir du feuilleton. J'ai eu une interruption et j'attends avec grand plaisir la deuxième partie parce qu'effectivement, Pierre, tu l'as dit, il y a du romanesque, il y a du souffle. Et alors, commence un truc hyper pédagogique sur l'art nouveau, en Allemagne de l'Est, comment est-ce qu'on résiste, comment est-ce qu'on ne résiste pas, comment est-ce qu'on fait de l'art officiel, comment est-ce qu'on s'y refuse. Bon, pourquoi pas, vous l'avez dit, c'est un sujet extrêmement intéressant, sauf que c'est parasité par l'hypothèse de la dénonciation, en tout cas de la révélation de ce qu'a été son beau-père avant. Comme, effectivement, Nicolas l'a dit, il ne le connaît pas, il ne le sait pas, il va le deviner, mais en tout cas, il ne sait pas que ça le touche de près. Commence une somme, mais d'indices, de fausses pistes, ça pourrait être maintenant, à un moment, il met sur le même cadre, la photo du salaud et la photo de sa victime. On se dit, bon, ça y est, on va. Et non, on recommence. Et jusqu'au bout, alors, il y a cette espèce de suspense qui n'en est pas un, qui devient un salmigondi scénaristique, mais inutile.
C'est quand même assez.
C'est lourdingue.
C'est pour arriver à la vérité sans le savoir.
Et je ne vous ai pas interrompu, les garçons. Ah ouais, alors, bah, c'est si, artificiel, ça ne mène à rien, et ça, malheureusement, parasite.
Franchement, quand on voit les films de ce soir, tout ce qu'on a, ce qu'on s'est vu, franchement, on est.
Alors donc, c'est ça maintenant, c'est pas trop mal.
C'est au-dessus de ce qu'on...
On vous recommande des films pas trop nuls.
Non. Là, après, moi, je rejoins sur la mise en scène. C'est vrai que l'œuvre sans auteur, elle est aussi dans la mise en scène du.
La deuxième partie. Il y a pas
de talent, mais quand même, la technique.
En termes de scénario, vraiment.
Le reproche que tu fais pour les photos, ça tient peut-être pas, Xavier, parce que simplement, ça lui permet justement de trouver un style.
Non. Alors, le reproche que je lui fais, c'est le nombre de fausses pistes qui pourraient enfin démasquer le salaud et qui n'en sont pas. Et
on voit rarement les artistes travailler comme
ça. Et qui restent sur ce sujet-là.
Oui, mais il travaille. Parce qu'il y a plein de sujets qui, sur 3 heures, il peut quand même faire croiser plusieurs sujets.
Et moi, et là, on voit rarement les artistes au travail. Quand même.
Les artistes au travail sur la durée, c'est quand même...
Allez, donc, toi, sous l'Allemagne de l'Est, j'aurais pas voulu te croiser. Hein.
L'œuvre sans auteur, c'est donc le film de le troisième, après presque 10 ans d'absence, d'ailleurs, de Florian Henkel von Donnersmarck. Sorti le même jour, 17 juillet, Persona non grata, le cinquième film comme réalisateur de Roche Dizem, et remake d'un film brésilien que moi je n'ai pas vu. Vous l'aviez vu, ce film brésilien, les uns ou les autres?
Pour une façon, oui.
Avec Nicolas Duvauchel, Raphaël Persona, et donc Roche Dizem, et les deux premiers, soit José et Maxime, sont associés minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté sur la côte languedocienne, et ils chargent un tueur à gages qui est joué par Roche Dizem d'éliminer leur autre associé, donc Polar Social, dont je vois mal l'enjeu. Et j'en profite d'ores et déjà pour vous rappeler, avant que vous ne parliez, qu'on va voir Roche Dizem dans Roubaix, une lumière de Desplechin, qui sortira fin août. Sophie.
Non, les enjeux, moi, je les vois au contraire, et je suis déçue par le film énormément, parce que je vois très bien le film qu'il, enfin, je sais pas si c'est le film qu'il aurait voulu faire, mais en tout cas, le film qu'il aurait pu faire et que j'aurais aimé voir. Et je le vois d'autant plus que par moments, ça, il y a comme un fantôme dans le film, on le voit, et la fin en témoigne, et la fin est très belle. Et tout à coup, tout est en place, c'est silencieux, il y a à la fois du réalisme et du symbole, et c'est très beau. Sauf que tout le film n'est pas à la hauteur de cette fin-là, et c'est quand même un peu embêtant quand même. Mais c'est curieux quand même. Bon, il y a plein de problèmes dans le film, il y a des problèmes de vraisemblance, il y a des problèmes d'écriture, il y a des problèmes d'articulation dans les
arguments,
dans les situations. Oui, il y a surtout, je dirais, des problèmes de personnages. Et c'est dommage, et c'est pas les acteurs qui sont en cause, parce que je trouve qu'ils sont tous assez bons, mais vraiment, entre l'un personnage qui est assez monolithique, qui dit tout le temps « je suis un battant » et qui pleure dans les bras de sa femme, Duvauchel qui part en vrille tout de suite, et puis il y a une espèce de paranoïa tout à coup, et ça va trop vite, et en même temps, il y a des ellipses pas au bon moment, et tous les deux se retournent l'un contre l'autre, et on se dit « mais pourtant, ils se connaissent depuis longtemps, donc ça devrait pas arriver comme ça », et surtout le personnage qu'incarne Roche Dizem, qui ne va pas du tout. Parce que il s'appelle Moïse, il est à la fois un prophète, il est à la fois un sale type et en même temps c'est un amoureux, c'est le mec de la rue qui apporte la rue et puis qui philosophe sur là, qui parle comme un oracle, et puis en même temps il est effrayant, enfin, et il s'est chargé tellement de choses, et en même temps il fait avancer la dramaturgie aussi, donc c'est pas crédible quoi, il y a un moment où c'est pas crédible, il peut pas endosser ça, et c'est dommage, voilà. Parce que il aurait pu faire un beau polar, le film qu'on voit c'est un polar existentiel.
Mais non, si tu me permets, c'est pour moi c'est pas du tout un polar, ça devrait être un polar.
Enfin,
c'est pas
un polar. Un film noir existentiel, par moments il y est, il y a de la mélancolie, il y a l'humanité, on voit, il visite les taudis, il y a une sorte de regard comme ça sur la pauvreté de la ville. Non, il y a des choses qui par moments surgissent, et sur aussi le parasite, hein, parce que finalement ça rejoint un parasite.
Tu l'as vu, Xavier, le film, toi, originel, oui, moi, si j'ose dire. brésilien.
Il y avait une vraie contextualisation politique et sociale, et je suis d'accord avec toi, elle manque terriblement à ce remake. C'est-à-dire que ça racontait aussi quelque chose du Brésil de 2002, puisque le film a été fait à cette époque-là. Mais vous avez tous les deux raison, c'est-à-dire qu'on voit les enjeux, Sophie a raison, et tu as raison, il n'y en a pas au final, donc on est extrêmement déçu de la manière dont il se débarrasse de tout ce qui pourrait être intéressant, la dimension sociale. À un moment, il regarde de loin sur la rive du fleuve, le monde dont ils viennent.
À la fin, elle est là, la dimension sociale.
Oui, la fin, c'est deux mondes.
Oui, mais comme la fin, de toutes les manières, on ne va pas la raconter. Donc ça ne sert à rien, Pierre, tout à l'heure, mais...
C'est deux milieux qui peuvent pas se mélanger, quoi.
Mais on a quoi qu'il arrive. Début, non, il aurait pu le, voilà.
Il travaille ce
Et moi, j'étais comme toi, le premier quart d'heure, je me dis, ça pourrait être intéressant. C'est pas vraiment un tueur à gage, pardon. Je rectifie.
Oui, non, c'est pas. Oui, absolument.
Voilà, il va les dépasser, en tout cas, dans leur intention. Et la manière dont il va prendre le pouvoir à l'intérieur de tous leurs univers, professionnels, familiaux, pour être un film extrêmement inquiétant, justement. Un vrai film noir, tu l'as dit. Et bizarrement, les personnages restent malheureusement englués dans une écriture très monolithique. Ils ne bougent pas. Les acteurs font ce qu'ils peuvent. Ils sont formidables. C'est traversé aussi par Avia Herzi, que je trouve assez intéressant pour le personnage. Choses, ouais. Elle, c'est presque celle qui évolue le plus, entre guillemets. Mais tout ça n'est qu'une mécanique, hélas...
Théorique, ouais.
Voilà,
théorique.
Exactement.
C'est théorique.
Pierre ?
Non, c'est quand même un film noir. Alors, vraiment, c'est un film noir sur l'avidité, sur l'argent, sur l'ambition. Et ça, c'est tout à fait classique à tous les films noirs et les romans noirs américains. Et l'apparition de Roche Dizem, vous avez tout à fait raison. Moi, je crois que c'est un problème de personnage, mais aussi un problème d'acteur. Je pense quand même que ni Nicolas Duvauchel, ni Raphaël Personnaz n'ont la puissance, la force d'incarner ça. Ce qui fait que quand Roche Dizem, qui cabotine beaucoup, on va le voir génial dans 18 jours. Hein,
le film de Desplechin est plus discutable, mais il est incroyable.
Il est incroyable, un comédien immense. Mais même là, parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose qui doit être un peu pâle, un peu fade, et il arrive là avec cette espèce de virilité, sa grossièreté même, son côté, et il se passe quand même quelque chose à ce moment-là.
Il est inquiétant dans le charisme, quand même.
Oui, voilà, non, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui domine tout, qui domine à la fois et malheureusement, il n'y a que lui, quoi, en quelque sorte. Et les autres sont un peu pâles, alors qu'on devrait être passionné par ce qui leur arrive, et on ne l'est pas.
Tu veux dire un mot, peut-être, Nicolas ?
Pardon. Non, mais non, pas du tout. Non, mais je trouve que... Je peux, non ?
Il a levé la main, mon frère.
Pourquoi tu l'empêches de parler, enfin ?
Mais je veux bien. Mais c'est intéressant, parce que je trouve que le personnage de Zem, il incarne exactement à la fois l'ambition et le ratage du film. C'est-à-dire que le film se veut mélanger tous les tons. Et quand tu parlais de Parasite tout à l'heure, Sophie, c'est vraiment ça, c'est qu'il veut à la fois être un polar, j'allais dire, de bonhomme, on pourrait dire à la Michael Mann, mais malheureusement c'est plus du Olivier Marshall dans le BTP en plus, et en même temps faire un peu comme fait le cinéma coréen et notamment Parasite, c'est-à-dire faire une critique sociale qui est entre la tragédie et la bouffonnerie, et le personnage incarne vraiment ça. Alors l'ambition est folle, elle est passionnante, et malheureusement elle fonctionne pas du tout parce que le film se prend souvent trop au sérieux, c'est-à-dire qu'il y a un manque de légèreté, la musique surdramatisante, le début avec ils écoutent Cabrel dans la voiture et Cabrel qui dit est-ce que ce monde des sérieux, on a envie de se dire est-ce que ce film est sérieux, quoi. Et c'est vraiment dommage parce qu'on sent même sur la région, la manière dont il filme la région de Montpellier, tout ça, il veut raconter quelque chose de l'époque, de l'avidité, des rapports sociaux, et malheureusement tout tombe un peu à l'eau, quoi.
Et puis le titre n'est pas non plus très favorable au film, c'est Persona non grata. Quand on a vu juste avant L'œuvre sans auteur et qu'on va voir après The Operative, ce qui est le cas maintenant. Film de Yuval Adler avec Diane Kruger et Martin Freeman. Diane Kruger, c'est Rachel. Alors attention, quand même une petite parenthèse, je vais résumer un film que j'ai vu au mois de juin. Et au moment d'écrire mon résumé, j'avais quasiment tout oublié. C'est très troublant quand même.
Ah. C'est très logique.
Nous aussi.
Il avait disparu. Quoi.
On en a vu beaucoup.
Donc,
moi je l'ai vu.
Dans les limbes de ce film que j'ai vu au mois de juin, je le rappelle, Diane Kruger, c'est Rachel, ancienne agente du Mossad, infiltrée à Téhéran et devenue la maîtresse d'un riche homme d'affaires iranien. Elle disparaît sans laisser de traces. Son référent, vous m'arrêtez si j'ai un peu oublié, hein. Son référent, son officier traitant, disons Thomas, c'est donc Martin Freeman, va la rechercher dans le but soit de la mettre sous contrôle, soit, ce qu'on pense davantage, de l'éliminer. Le film se déroule, maintenant ça me revient, entre Téhéran, Jérusalem, Cologne, Leipzig, et il est adapté du roman d'un ancien espion israélien. Ce dont je me souviens très bien, c'est qu'il n'est pas la gloire du Mossad et de ses méthodes radicales. Et je comprends mieux qu'il ait été, sinon mal accueilli, du moins même peut-être censuré en Israël. Nicolas, veux-tu parler ?
Écoute, ben je suis un peu comme toi, mais j'ai vu le film beaucoup, il y a 2-3 jours, très récemment, et il a fait pute. Non, mais vraiment. Alors, j'en viens à me demander si Diane Kruger n'est pas une très très grande actrice.
Non, ça tu peux éliminer l'hypothèse.
Non, je t'assure, parce que
regarde pas comme non, c'est pas de perdre.
Elle a une capacité à enchaîner des films. On se souvient d'In the Fade de Fatih Akin, qui était quand même terrible.
C'est un sommet, ça.
C'est un sommet. Ben, je trouve que celui-là, il est moins problématique parce qu'il est sur le sujet, il l'est moins. Mais des films insipides et totalement, là vraiment, c'est un film d'espionnage avec tout ce qui s'est fait.
Mais le sujet est intéressant.
Le sujet est passionnant. Mais alors, c'est une molette. Alors pour le coup, il y a pas de cinéma. Bah, je suis désolé, on va y revenir. Il y a vraiment pas de cinéma. Il y a des incompréhensions, des scènes totalement pas crédibles qui jouent sur le hors champ, faute de crédibilité. À un moment, elle infiltre la société dans laquelle elle travaille de nuit pour, avec une clé USB, aller récupérer des fichiers d'un ordinateur.
Ah, ça me revient. Ça y est.
Et elle passe par l'escalier de service. Ou à chaque fois qu'elle arrive à un étage,
il y a un gardien en bas
qui est dans l'escalier avec elle. Et à chaque fois qu'elle arrive à un étage, les lumières s'allument puisque c'est automatique, c'est l'escalier de service. Et on se dit, le gardien qu'on ne voit pas qui est hors champ, il devrait quand même s'alerter à chaque allumage de lumière. Non, il fait son petit bonhomme, on l'entend derrière faire son petit bonhomme de chemin, et à aucun moment il n'est alerté par.
Et je rappelle que c'est une ancienne. Agent secret, quand même. Donc, c'est quand même bizarre qu'elle ne comprenne pas non plus ce qui se passe.
Oui, il s'en fout. C'est un fonctionnaire, il s'en fout.
Ah oui, d'accord, mais enfin, faut que le film le mette en scène. Enfin, voilà, c'est un film.
C'est un
inexistant avec une actrice qui.
Là, on vient de perdre tous les fonctionnaires qui
n'a pas
dit. Si, merci.
Non, mais c'est un. Voilà, je vais me faire attaquer par tous les fonctionnaires. Je veux dire qu'il s'en fout, voilà, c'est pas.
Avec Macron, il y en a de moins en moins.
En même temps, c'est son boulot, il n'a rien à faire.
Voilà, c'est ça, il dort à moitié.
On est le 4 août.
C'est ça que je veux dire.
Il y a un suspense,
il est censé y avoir un film. Moi, j'adore les films d'espionnage, donc j'étais plutôt content de le voir.
C'est pas un film d'espionnage, là, non plus.
Ah ben, si, c'est un peu...
C'est un film sur non, mais sur une espionne tirée d'un témoignage d'un ancien agent...
Oui.
Mais elle est en mission, on la voit en mission, quand même.
C'est un peu... Non, mais c'est au contraire très vieillot comme histoire, c'est-à-dire que c'est un agent qu'on a utilisé tant qu'il était utile, puis quand il n'est pas utile, il faut s'en débarrasser. C'est l'espion qui venait du froid, c'est John le Carré, c'est tout ça.
C'est une reconstitution de son parcours, donc ça devrait mélanger, croiser les deux ambitions.
Oui, la
comprendre.
J'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris. Mais simplement, voilà, c'est-à-dire que ça m'a rappelé les films d'espionnage que je voyais quand ils étaient très à la mode dans les années 60. En effet, Sidney Lumet, enfin ces années-là. Donc
le côté de John le Carré aussi.
Le côté de John le Carré.
La fin d'ailleurs à Berlin.
Alors je comprends pas très bien John pourquoi le Mossad s'est offusqué parce que en gros.
Si.
Les agents secrets sont rarement des gens très sympathiques et très humains. Que ce soit le KGB, on l'a vu, que ce soit la CIA, enfin le FBI ou que la CIA ou ça. Donc voilà, ils agissent en agents secrets, ils sont pas sûrs, ils veulent l'éliminer. Enfin voilà. Et je trouve ça un petit peu plus ennuyeux que le film de Luc Besson. Voilà.
Sophie.
Moi je suis pas du tout d'accord. J'aime beaucoup le film. Ah. Je le trouve formidable ce film. Vraiment. Je le trouve très intéressant et très alors un peu vieillot peut-être, mais enfin bon, moi je suis au fait des dernières techniques des agents secrets, donc ça c'est m'a paru éternel, assez... Non, j'ai trouvé ça intéressant parce que, alors, justement, contrairement à Besson, parce que c'est la même histoire au fond, c'est un portrait de femme reconstitué et elle est agent, l'une au KGB, ici au Mossad, mais on est très loin des stéréotypes, on est dans quelque chose de très subtil sur le... Il me semble que c'est un film qui met en jeu le corps et le physique, et il y a une scène extraordinaire où elle se fait à moitié violée dans une voiture qui est une vraie scène, un morceau d'audace dans le film et qui est vraiment une scène très forte. Elle a une histoire d'amour avec l'homme Farhad, donc forcément c'est charnel, c'est un film extrêmement charnel. Et en plus, il y a vraiment...
C'est l'Iranien qui veut, avoir travaillé aussi.
Voilà. Mais les enjeux politiques et géopolitiques, disparaissent au profit vraiment de l'humain, du corps, du physique. Qu'est-ce que c'est qu'être agent secret ? C'est mettre son corps en danger. Et le film rappelle sans arrêt ça. Et en plus, il y a des problèmes d'identité, évidemment, parce que c'est un film d'espionnage. Et je trouve qu'il y a une histoire secrète avec son père qui est très intéressante dans le film.
Xavier.
Moi, je trouve que c'est un film. J'aurais aimé voir le même film que Sophie qui en parle magnifiquement, mais malheureusement, c'est un film qui est rattrapé par toutes les séries télé qu'on voit actuellement, qui ont l'ampleur nécessaire pour raconter cette complexité, cette dualité, cette violence qui est faite aux espions. Et moi, je vous recommande, plutôt que de m'acharner sur le film qui n'en mérite pas tant, The Little Drummer Girl, l'adaptation du roman de John le Carré par Park Chan-wook pour la télévision, et qui là, vraiment, sur ces épisodes, donne une violence, une ampleur panoramique comme ça de la complexité des choses que malheureusement The Operative manque complètement.
Bon, allez, c'est donc The Operative de Yuval Adler. Très très peu de temps, quelques minutes. J'avais inscrit Earthmail, que je me suis payé 2h15, d'Alex Ross Perry avec Elizabeth Moss dans le rôle d'une star de punk rock ravagée par l'alcool et la drogue. La musique est insoutenable. 2h15, tu l'as pas vu?
Mais non, quelle chance.
Ah, mais c'est quelque chose. Donc dites-moi vite que si vous avez aimé, peut-être Xavier.
C'est insupportable, c'est entre Opening Night et Sunset Boulevard. C'est-à-dire que comme il y a une équipe de cinéma qui tourne dans la première partie de police, pendant lesquelles elle va taillader sa copine, vomir, taper son mari, enfin bon bref, là pendant 1h10, elle est très colère. Elle passe son temps en sortant des chiottes avec le nez comme ça, un peu en sang. Où est la caméra? Où est la caméra? Donc à côté, Gloria Swanson, c'est une grande actrice jurassienne, faut quand même dire les choses un peu quand même. Et alors, cette espèce de violence. Après, elle s'apaise. Et donc elle est chez elle, dans les clichés. Alors elle prend sa petite fille sur ses joues, puis elle chante au piano. La, 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 la. Puis elle remonte sur scène. Et c'est, mais 2h15 d'un personnage qui pourrait nous bouleverser et dont on se fout, mais complètement. C'est quand même un exploit.
Un mot, Nicolas?
Oui, c'est un film hystérique et insupportable sur un personnage hystérique et insupportable. Et la seule qualité, on va dire, dans tous ces défauts du film, c'est que je pense qu'il est assez juste, finalement, sur le, que Ross Perry, il a ce don. Il aime bien, faire des portraits d'artistes, et on l'a vu dans Listen Up Philippe, où c'était beaucoup plus inspiré avec un pseudo Philippe Ross, où il va vraiment voir l'égotisme des artistes et la regarder vraiment dans le blanc des yeux. Et là, malheureusement, le personnage est insupportable et la mise en scène, alors avec ce son d'égout pendant tout le truc, est censé derrière dans la bande son qui est censé faire monter la tension.
Mais la mise en scène aime même pas le personnage.
Pierrot.
C'est encore ça qui m'a paru le plus intéressant, c'est la bande son, par exemple dans. Mais oui, mais non, pas quand elle chante. Non, non, pas quand. Non, non, mais pas quand elle chante ou quand il chante.
La bande son quand elle chante.
Non, la bande son, justement quand elle s'apprête, par exemple, l'acte 2, parce que c'est très théâtral, ça ressemble un peu à Qui a peur de Virginia Woolf, aussi bien d'Albi, c'est un règlement de compte comme ça entre. Non, mais c'est quand elle s'apprête à monter en scène, quand elle va pas y arriver. Et ben là, il y a le public là, tu sais, qui attend, et on entend le bruit des applaudissements. Là, il y a un petit climat qui se crée. Mais je suis d'accord, 2h15 avec Elizabeth Moss en liberté hystérique, c'est beaucoup.
C'est donc Earthmail, Alex Ross Perry. On termine rapidement avec ce documentaire qui a été présenté à Cannes en sélection officielle. C'est donc sur Diego Maradona, film d'Asif Kapadia qui avait fait un film sur Ayrton Senna et sur Amy Winehouse. Et là, donc là, il s'intéresse donc à l'idole de Nicolas, qui est donc ce footballeur argentin de légende, ancien numéro 10, qui a eu bien des ennuis. Avec en même temps dans le film, cette très forte présence de Naples, où je vous le rappelle, en 84, ville à l'époque la plus pauvre d'Europe, il a été accueilli et acheté à prix d'or pour devenir le demi-dieu de Napolitain, mais rapidement
j'ai trouvé ce film formidable. Il y a une matière d'archives extraordinaire. Ils ont pendant 3 ans, je crois, essayé de récolter des archives, mais encore fallait-il les revoir. Et surtout, il y a un travail de recomposition. Il y a une intelligence d'approche du personnage en faisant ils ont aussi fait des interviews de l'ex-femme de Maradona. C'est formidable. Il y a un personnage qui émerge de ça. Moi, je connais rien au foot. J'avais peur de m'ennuyer.
Ça dure quand même 2 heures, il faut le préciser.
Ça dure 2 heures, donc c'est pour ça que j'allais un peu reculer. Je connaissais Maradona, je savais même pas qu'il avait joué en Italie.
Mais tu connaissais le football ou pas le jeu qui consiste à en jouer?
C'est ce que je te dis. Je m'intéresse pas au foot, mais je connaissais quand même Maradona. Mais simplement, j'ai vu ce personnage. Il a une dimension romanesque. On parlait du romanesque tout à l'heure. Il est vivant, mais il a une dimension romanesque extraordinaire. C'est un petit lutin merveilleux d'un côté, et puis c'est un tricheur de l'autre. C'est un type qui assume pas, qui met sa vie pour assumer pour reconnaître son fils. Mais à côté de ça, c'est un génie. Et on a le sentiment d'un type qui a été pris par sa vie, qui a pas eu le temps de la construire et qui a été construit par la vie, quoi. Il est étonnant, ce film.
Je vous rappelle qu'il a fait gagner la Coupe du Monde quand même à son pays en 1986, Xavier.
Allez, un petit quart d'heure de trop, mais je partage complètement l'enthousiasme de Sophie et la virginité absolue dans le domaine footballistique. Ça, je suis comme toi. Je m'en fous comme de l'an 30, mais c'est pas peu dire. Je connaissais un peu Maradona.
Qu'est-ce que vous êtes méprisant?
Le film se concentre sur le moment où il arrive à Naples et on a une séquence d'ouverture comme une poursuite. Ce sont deux caméramans. Des amis proches de Maradona qui ont filmé, ce que fait le réalisateur Asif Kapadia dans ces images, en les recadrant, dit des choses absolument passionnantes. La première conférence de presse, je te laisse parler, promis Nicolas, il ouvre la bouche comme ça pour essayer.
Il veut parler, tu crois?
Je crois. Ou alors il cherche son air comme les poissons rouges. Mais il y a une
séquence. C'est limité Mylène Farmer, mais ça ne te fait rien.
Je t'en mets un. Il y a une séquence absolument géniale de conférence de presse où la première question qui est posée à Maradona, c'est vous êtes quand même conscient que c'est la mafia napolitaine qui paye. Mais j'y vais, j'y arrive.
C'est là le film.
Pierre.
Mais il s'arrête là, le film.
Non, il commente.
C'est ce qui a rencontré le film.
Non, il commente. Et le journaliste, vous êtes quand même au courant que c'est la Camorra qui vous paye. Et à ce moment-là, l'entraîneur dit, c'est moi qui vais répondre. Il commence à insulter le journaliste avec un Maradona génial sur lequel la caméra se recadre, qui est à la fois éthéré, mais on ne sait pas très bien s'il est éthéré parce que ça se sait ou parce que, effectivement, il le découvre. Et toute l'ambiguïté du personnage, elle est là et elle va vraiment se développer pendant tout cet excellent documentaire.
Nicolas et Pierrot, l'émission se termine là.
Moi, je suis d'accord avec vous parce que je pense que c'est un film pour les gens. Moi, je connaissais pas Maradona du tout. J'ai découvert. Je pense que les gens qui connaissent bien Maradona seront un petit peu déçus parce que je pense pas qu'on y découvre énormément de choses. L'axe du film, c'est de raconter Maradona à Naples des années 80 à 90. C'est de raconter aussi le Naples des années 80, c'est-à-dire une ville pauvre qui accueille le joueur le plus cher.
Par les supporters des
équipes adverses. C'est raconter la cocaïne, c'est raconter aussi le trafic de drogue et la mafia. Et en ça, le film est vraiment passionnant. Et moi, j'ai découvert en Maradona quelqu'un de beaucoup plus intelligent et beaucoup plus brillant que ce qu'on pouvait croire. Après, moi, je trouve juste qu'il y a une grille systématique de lecture chez Capadia qui commence un peu à trouver ses limites. C'est-à-dire que c'est systématiquement le personnage auquel il s'intéresse, c'est un peu le loi blanche très talentueuse qui se fait écraser par le système médiatique, par le milieu dans lequel il évolue. Et je trouve qu'il a tendance un peu à le, pas l'idéaliser, mais en tout cas, il a une vision un peu trop naïve, je trouve, encore du personnage, et il le fait rentrer dans sa grille de lecture, qui je trouve était beaucoup plus passionnante sur Ami. Et il faut savoir que les images d'archives de
Naples. Tu as dit l'essentiel, là.
C'était des gens. Non, mais il a récupéré des images,
oui, les gens. Se termine.
Bon, alors,
voilà, je voudrais que Pierre dise quelques mots.
C'est pas du tout un bon film. c'est pas très bon parce que en fait, il est noyé sous les images, sous les buts. Alors moi, j'aime pas le foot, j'aime le rugby. Alors c'est autre chose, évidemment. Ben oui.
Qu'est-ce que vous avez tous à ne pas aimer le foot ?
J'aime le rugby, c'est mon droit. Ceux qui aiment le rugby n'aiment pas toujours le foot. Mais toujours est-il que moi, ce qui me semblait intéressant et qu'il ne fait pas, c'est justement ce qu'a dit Xavier, c'est-à-dire la mafia. La mafia est très 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 gentille.
Non.
Très gentille. Et pas du tout.
T'es parti où t'as dormi ?
C'est presque une vengeance du pays.
On voit bien.
Parce
j'ai compris ça.
Mais non, c'est très intéressant.
J'ai compris. On cessait de m'expliquer les films. Je les comprends quand même. Mais
et bon, on n'a pas l'impression quand tu les racontes.
Si.
Voilà.
Mais si, c'est justement c'est vous qui ne les comprenez pas là parce que vous ne voyez pas que le film est très lénifiant et sur la Sicile et sur la mafia et sur Maradona. Voilà.
C'est donc Diego Maradona, le film d'Asif Kapadia. Allez, rapidement un conseil pour finir cette émission. On va commencer avec Pierre.
Alors, un petit film russe qui est sorti récemment, qui s'appelle « Folle nuit russe » d'Anya Kreis, qui est en effet un soldat qui revient, un fusil qui se balade, et c'est vraiment très bien. Et puis, il y a quelques jours, vient de ressortir la version intégrale de Fanny Alexandre, et qui est absolument splendide à revoir et à revoir
et
encore. Et donc vraiment incontournable. Il était sorti en DVD, mais pas en salle. Donc, allez voir en salle, sur grand écran, Fanny Alexandre.
Le conseil de Nicolas.
Alors moi, ce sera un livre qui est sorti il y a un ou deux mois, donc c'est mais bon, vous trouverez tout de suite dans les librairies et qui est, je trouve très bien pour les vacances puisque ça s'appelle 100 grands films pour les petits et c'est un guide fait par Lydia et Nicolas Boukrieff, journaliste à Starfix et devenu cinéaste. Et alors c'est très bien fait parce que c'est vraiment un guide du début du cinéma à aujourd'hui qui vous fait un choix très très bien vu de plein de films à montrer aux enfants selon les âges avec à chaque fois deux pages où ils développent un peu leur vision du film et à la fois pourquoi c'est bien pour les enfants. Enfin voilà, c'est vraiment très pratique pour les vacances. Je trouvais que c'était un bon cadeau. Et c'est sorti chez Arte Éditions et Grund.
Xavier.
Halt, le nouveau film de Lav Diaz, le cinéaste philippin, presque un court-métrage, 4h37. C'est le plus grand cinéaste
actuel. C'est sérieux, 4h37.
C'est le plus grand cinéaste en activité. C'est une dystopie. On est en 2034. L'Asie du Sud-Est est plongée dans le noir. Un dictateur très étrange aux mœurs qui le sont tout autant après le pouvoir, défendu par deux gardesses du corps lesbiennes. C'est à la fois drôle, méchant, politique, feuilletonesque. On ne voit pas le temps passer. C'est un grand cinéaste pour un grand film. Halt, Lav Diaz.
Le conseil de Sophie.
Rêve de jeunesse d'Alain Raoust, qui est sorti le 31 juillet et qui est un film absolument magnifique. C'est un film à la fois politique et poétique. C'est un film qui se passe dans une déchetterie et en même temps, c'est un film sur l'éblouissement.
Tout le film se passe dans la déchetterie.
Oui, et c'est absolument magnifique parce que c'est sur la beauté du paysage. C'est un film sur la jeunesse d'aujourd'hui. C'est un film sur l'époque. C'est un film sur le deuil, c'est un film sur la fin des utopies, mais c'est aussi un film sur le recommencement, c'est un film sur l'amour. C'est absolument magnifique.
Et qui s'appelle ?
Rêve de jeunesse, Rêve. Alain Raoust.
Tous ces conseils, même celui qui se passe dans une déchetterie, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup aux estivants Sophie Avon, Xavier Le Herpeur, Nicolas Chalère et Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Sélamé ce soir au théâtre de l'Alliance Française. Il y avait, je les remercie, Valérie Lavalard, Julie Garraud, Pierre-Henri. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque aura lieu le mercredi 14 août. Et oui, pas de trêve pour l'équipe du Masque. Et ce sera exceptionnellement au Grand Contrôle 81-87 rue du Charolais, dans le 12e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. On parle dans une semaine de littérature et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.